L'aspect le plus important de la pensée bouddhique qui donne tout le sens à tout l'enseignement du Bouddha et sans lequel rien ne tiendrait dans le fond, c'est la notion d'absence du moi. C'est un aspect, c'est une réflexion assez subtile, assez difficile, parce qu'évidemment elle rencontre beaucoup d'habitudes et beaucoup de résistances, mais sans, disons que si le moi existait réellement, concrètement, alors tout le chemin bouddhique n'aurait pas de sens. Quand le Bouddha prétend enseigner la souffrance et la libération de la souffrance, et que l'élément de la souffrance prédominant, si vous voulez, c'est la naissance et la mort, si un moi existait réellement, alors ça ne veut rien dire. Se libérer de la mort ne voudrait rien dire du tout. Donc la clé, si vous voulez, pour que tout ait un sens, une cohérence, si vous voulez, c'est cette notion d'absence du moi, et c'est aussi le cœur de la pratique. Si nous, tout ce que nous mettons en place dans la manière dont nous pratiquons ici, c'est pour réaliser ceci, c'est pour s'approcher d'une plus grande intimité des expériences, pour réaliser que lorsqu'on est très clair dans les expériences, dans cette intimité, quand il n'y a plus de voile, alors on se rend compte à ce moment-là que effectivement il n'y a pas de moi. Donc il ne s'agit pas évidemment d'essayer de se convaincre qu'il n'y en a pas. C'est l'inverse. Il faudrait au contraire essayer de le trouver. S'il est là, alors trouvons-le. Se convaincre qu'il n'existe pas n'a pas de sens. Ou il existe ou il n'existe pas. Il s'agit de l'explorer, hein, en toute honnêteté. Saint Augustin disait, si personne ne me demande, je sais. Mais si on me demande, je ne sais plus. Il disait au sujet du temps, qui est quelque chose d'assez insaisissable aussi, mais on pourrait très bien le dire au sujet du moi. Si personne me demande, je sais, on a l'impression que c'est évident ce qu'est le moi. Mais dès qu'on essaie de mettre le doigt sur ce qui pourrait correspondre à un moi, alors là, ça devient plus difficile. Et ceci, évidemment, ce questionnement n'appartient pas en propre à la tradition bouddhique. C'est un élément important, donc tous les penseurs, les philosophes, même dans les diverses religions, s'est posé des questions. Qu'est-ce que ce moi ? J'ai pas voulu vous donner toute une liste de citations de philosophes occidentaux. J'en ai choisi une aujourd'hui, David Hume, donc le philosophe écossais, je crois, qui dit « Pour ma part, quand j'entre en moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou une autre, de chaleur, de froid, de lumière, d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir à aucun moment sans aucune perception et ne peux jamais observer autre chose que cette perception. Je peux m'aventurer à dire du reste de l'humanité qu'ils ne sont rien d'autre qu'un amas, une collection de différentes perceptions qui se succèdent avec une rapidité extraordinaire et sont perpétuellement dans un flot et en mouvement. » Voilà donc un philosophe occidental qui essaie simplement, dans son introspection, de découvrir ce qu'il y a. Voilà ce qu'il découvre. Découverte d'ailleurs que de nombreux philosophes ont fait de la même manière. Donc la difficulté avec ce questionnement du moi, c'est que on nomme moi des choses très différentes et que finalement on glisse toujours de ce qu'on croirait être le moi sur l'endroit où on l'a placé, si vous voulez. Donc on ne parle jamais, pour ainsi dire, de la même chose. On peut le voir dans la manière que nous avons de nous exprimer. Le moi peut être le corps. On peut dire, on peut se donner donner au moi des caractéristiques corporelles. J'ai froid, caractéristique corporelle. Je suis triste, une caractéristique émotionnelle. Quel est ce je qui pourrait, ou ce moi qui pourrait être à la fois tangible, froid, et qui pourrait être triste? Donc dès qu'on commence, la citation de David Hume marque bien ça, dès qu'on commence à essayer de se dire qu'est-ce qui correspond à ce moi, donc mettre le doigt dessus, si vous voulez, on se rend compte que c'est jamais dans le fond sur le moi qu'on met le doigt, mais c'est toujours sur une sorte d'expérience. Donc je voudrais approfondir un peu ceci ce soir pour essayer de montrer comment on peut l'explorer, mais aussi dans le fond pourquoi ou comment on crée cette notion du moi. Parce que c'est important de comprendre. Il ne s'agit pas simplement d'essayer de dire, voilà, on ne peut pas le saisir, il ne se trouve ni là, ni ici, sans essayer de comprendre à quoi cette notion de moi tente de répondre. Parce qu'évidemment, c'est d'une utilité extraordinaire. Personne ne va nier ceci, ni prétendre qu'il faudrait, par exemple, éduquer les enfants sans leur donner cette notion du moi, qui serait une catastrophe. Ou commencer à inventer un langage pour parler de soi-même en oubliant le je et le moi. C'est une chose très compliquée, et puis on ne saurait plus de quoi on parle. Donc il ne s'agit pas de ceci. C'est qu'on donne une existence concrète et solide à ce qui n'en a pas, qui n'est qu'une manière de parler. Donc ceci, on le trouve dans l'enseignement du Bouddha constamment. Premier enseignement qu'il aurait donné, c'est la mise en mouvement de la roue de la loi. Et le deuxième enseignement à ses cinq compagnons d'ascétisme, c'est sur l'absence de moi. Donc c'est très important. Je vais citer ici un sutra parce qu'il est assez précis, me semble-t-il, où les ascètes viennent interroger un des principaux disciples du Bouddha Anuruddha, et puis il lui pose une question. Il dit, est-ce que le Bouddha existera après sa mort? Et Anuruddha dit, on ne peut pas dire comme ceci, on ne peut pas dire ceci. Alors il dit, alors il n'existera pas, ou est-ce qu'il existera? Il dit, on ne peut pas dire ceci. Et les ascètes sont fâchés, ils disent, mais enfin, il ne sait pas de quoi il parle, ce moine. Il est confus, alors que c'est un des plus brillants disciples du Bouddha, et ils s'en vont fâchés. Anuruddha va vers le Bouddha et il lui explique ce qui s'est passé. Il dit, il y a quelque chose qui lui a échappé. Il n'a peut-être pas bien répondu à ses ascètes. Et le Bouddha interroge le moine alors qu'il est devant lui. Il lui dit, eh bien, est-ce que le corps est le Bouddha? Anuruddha dit non. Alors est-ce que les sensations affectives? Il dit non. Alors les émotions? Non. Les perceptions? Non. La conscience? Non. Il cite un peu tout ce qui compose un être humain. Il dit, alors, est-ce que c'est la totalité de tout ceci? Il lui dit non. Alors, est-ce qu'il y a, le Bouddha existe séparé de tous ces composés? Il lui dit non. Alors, le Bouddha dit, si tu ne peux pas trouver le Bouddha alors qu'il est en vie, qu'est-ce qu'il faut dire après sa mort? Et donc, dans le fond, l'erreur d'Anuruddha ici était de laisser supposer qu'il y aurait une autre manière de s'exprimer. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre manière de s'exprimer. Il n'y a rien de saisissable qui ici corresponde au Bouddha comme quelque chose de défini. Mettre le doigt sur quelque chose qui serait le Bouddha. Certains systèmes hindous voient dans ce qui est la personne, ce qu'ils appellent le jiva, ce qui est né, comme une sorte de petite essence qui se trouverait au niveau du cœur. Donc il y a certaines notions ou certaines tradition, on détermine quelque chose, parce que c'est assez déconcertant de se dire qu'il n'y a rien qui correspond au moi. Mais le Bouddha, évidemment, ne s'engage pas là-dedans. Il refuse toute manière de vouloir saisir le moi. Et si on veut, ceci est la clé de la libération, la clé du nirvana dans la tradition bouddhique. Dans un autre sutra, un ascète, Vachagota vient voir le Bouddha et il lui pose une question. Il est avec Ananda, le Bouddha, comme d'habitude. Et puis cet ascète demande au Bouddha et lui dit, est-ce que le moi existe? Et le Bouddha ne répond pas, il reste silencieux. Alors il lui demande, est-ce que le moi n'existe pas? Et le Bouddha reste silencieux. Alors l'ascète s'en va et ensuite Ananda demande au Bouddha, mais pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous n'avez rien dit? Vachagota, il lui dit, parce que si j'avais répondu « est-ce que le moi existe ?», si j'avais répondu « oui », il aurait saisi quelque chose, il en aurait fait quelque chose d'existant réellement. Et si j'avais dit non, alors il aurait cru qu'il n'y a rien. Donc voilà pourquoi je n'ai rien dit. Et ça c'est la réponse un peu formelle, si vous voulez tomber dans un des extrêmes de l'éternalisme ou du nihilisme, mais cette réponse, elle est un peu trop formel, si vous voulez. Le problème dans cette question, quand cet ascète vient lui poser la question, c'est de quoi est-ce qu'il parle? Quand il dit est-ce que le moi existe, qu'est-ce qu'il a en tête? Et quand il dit est-ce que le moi n'existe pas, qu'est-ce qu'il a en tête? Il faudrait savoir, il faudrait l'interroger, qu'est-ce qu'il veut dire par ceci? Donc, toute réponse, positive ou négative, dans les deux cas, est dangereuse. Elle pourrait amener de la confusion parce qu'on ne sait pas de quoi la personne parle. Donc je crois que de répondre à cette question, il faudrait d'abord se demander, mais de quoi parle-t-on quand on parle du moi? Il y a une difficulté en s'engageant dans ce questionnement au sujet du moi, c'est que on risque de croire, lorsqu'on parle du moi, qu'on parle de l'existence de la personne, de son existence même. Alors nier l'existence du moi, ça serait nier l'existence de la personne. Et on a des réactions, des résistances très souvent justifiées, on pourrait dire, de psychologues, de psychanalystes qui disent « mais c'est pas possible, on ne peut pas nier cette existence, c'est comme si... » Il y a là, on prend le sens du moi comme s'appliquant à quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il ne s'agit pas de dire il n'y a pas d'existence. On peut même se poser cette question, mais enfin, si je découvre que le moi n'existe pas, est-ce que ça veut dire que je n'existe pas? Et évidemment, ce n'est pas ce dont il s'agit, ce qui serait complètement absurde. C'est pour ça qu'il est important de bien essayer de savoir de quoi on parle. Quand on parle du moi, même si ce dont on parle, c'est extrêmement fluctuant, comme je l'ai montré, on le place sur différents éléments. On place le moi un peu comme on place le mot fleur sur différentes choses très différentes. On peut parler de fleurs sur des plantes qui ont des aspects, des couleurs qui sont petites ou grandes très différentes, et pourtant, dans tous les cas, on peut parler de fleurs. De la même manière, on parle de moi dans des expériences très différentes, corporelles, émotionnelles, même opposées. Je suis triste, je suis heureux, je peux dire je dans les deux cas. Or, l'expérience de la tristesse ou de la joie est complètement différente. Donc on place ce terme je ou moi exactement comme on place le terme fleur sur des choses très différentes, on place ce terme je sur des choses très différentes. Et si on questionne cette existence du moi, ce n'est pas questionner ce sur quoi on a placé cette notion du jeu ou du moi. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. On a un sens, la plupart, un sens de notre existence, de notre réalité, qui est quelque chose d'assez ferme, d'assez stable. Et ce n'est pas ce qui va être questionné dans cette méditation, dans ce questionnement. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a aussi certaines personnes pour qui ce sens d'exister, de leur propre existence, de leur propre réalité, est beaucoup plus fragile. Et il ne s'agit pas, évidemment, d'engager les méditants, les méditantes, dans une zone comme ceci, où tout d'un coup, le sentiment de leur propre existence deviendrait fragile, qui pourrait évidemment occasionner des troubles, des équilibres qui seraient pas du tout souhaitable. Le psychanalyste et psychiatre Ronald Leng décrit, dans un texte qui s'appelle « Le moi divisé », décrit justement pas mal de cas de ces personnes qui ont un sens de leur propre réalité assez fragile, et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte d'une certaine manière dans ces cas plus difficiles comment il y a une sorte de lutte pour essayer de s'assurer de sa propre réalité, qui évidemment est quelque chose d'extrêmement douloureux et difficile. Je cite le cas d'une personne qui se rend au cirque, est fascinée par le spectacle, donc elle s'oublie complètement pendant tout le spectacle du cirque, et puis tout d'un coup, à la fin, elle réalise qu'elle a oublié de penser à elle, de voir où elle était. Elle est complètement angoissée, et c'est comme si elle avait perdu son existence parce qu'elle n'avait pas pensé à elle-même, c'était pas constamment saisie comme existant. Donc une angoisse, hein, elle se dit, jamais plus, il faudra que je m'oublie, que j'oublie où je suis, que j'oublie quel moment on est. Il est évident que la méditation sur l'absence de moi ne nous engage pas du tout dans des zones comme ceci, où tout d'un coup on commencerait à douter de notre propre réalité. Il ne s'agit pas de ceci. C'est autre chose, la notion du moi. Donc nous fixons cette notion du je ou du moi, ce qui est déjà paru dans le questionnement que le Bouddha donne au moine Anuradha. Nous le fixons, nous projetons cette notion de moi ou de je sur beaucoup d'éléments disparates, sur notre corps, sur les émotions, sur la perception. Je vois, j'entends, je pense. Qui nous donne le sentiment qu'il y a là quelqu'un, même la certitude. Il y a là quelqu'un qui pense, qui entend, qui voit. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je vois, j'entends, etc. Et aussi un sens de continuité. J'étais là quand j'avais 5 ans, c'était moi. Je prends mon album de famille, je dis ça, c'est moi, là, différentes périodes de ma vie, avec la même certitude. Il y a bien une continuité. Alors si cette continuité était celle du corps, il y a quand même pas mal de changements tout au cours de l'existence. Certainement plus aucune cellule qui était d'origine, si vous voulez. Donc on voit pas où est la continuité, là. Développement social, la maturité, tout change. Même la caractéristique psychologique, on espère que ça a un peu changé depuis l'âge de 2 à 3 ans quand même. Donc, et pourtant, on a la certitude d'y avoir une continuité. Alors, est-ce que c'est ce moi ou ce je qui rend compte de cette continuité? Il y a continuité parce que il y a un je et moi qui est toujours le même. D'où cette manière qu'ont certains systèmes hindous d'imaginer ce jiva au centre-cœur, ce petit bonhomme, pour parler de manière un peu caricaturale, qui lui serait le garant de l'unité, qui permettrait d'avoir cette certitude, c'est moi la même personne. Mais on se rend bien compte qu'elle ne peut pas être le corps parce qu'il a changé, ni l'intellect, il a changé aussi un petit peu. Et les émotions changent aussi, elles changent d'instant en instant, d'un jour à l'autre, d'une seconde à l'autre. Donc c'est pas une sorte de continuité émotionnelle. Dieu merci, imaginez si on avait une émotion à la naissance et on avait la même à la mort. Non, c'est pas ce dont il s'agit. Mais donc, si on cherche qu'est-ce qui est constant, qui nous donne ce sentiment d'être la même personne. Et là, trop facilement, on parle du moi ou du je, parce qu'on voit bien que les autres éléments ne semblent pas pouvoir jouer ce rôle. Beaucoup de philosophes disent ceci, c'est le seul garant de cette unité, de ce sens d'unité, c'est le moi ou le je. Sans d'ailleurs pouvoir dire exactement ce qu'il est réellement, si ce n'est cette constante tout au long de l'existence. Donc ce qui est intéressant, c'est que si nous observons ce qui se passe dans notre vécu, si vous voulez, ben il y a des visions, par moments on voit des choses, on entend, on goûte, on pense, il y a des états de fatigue, de repos. Donc à chaque instant, il se passe quelque chose qui change d'instant en instant. On est, comme le décrivait David Hume, il y a ce flot constant d'expériences différentes qui est ce qui fait notre vie. Même dans notre méditation, on peut le sentir, il y a des choses qui changent, quelquefois pas assez rapidement, mais ça change. On a l'impression qu'on passe d'une expérience à l'autre, ou dans la vie quotidienne. Donc où va se trouver cet élément de constance? Si on ne veut pas sauter trop rapidement sur la conclusion qu'il y a un moi, un je, on ne sait pas bien ce qu'il est, mais il rend compte de cette unité. Pour comprendre un peu ce qui peut faire cette unité, il faut parler un peu de la manière dont la conscience fonctionne. Ceci peut permettre de comprendre comment se structure ce jeu, ou comment il est nourri, comment il surgit. Donc, à chaque instant, il y a conscience et conscience de quelque chose. Conscience d'un son, d'une forme, d'une couleur, d'une pensée, d'une émotion, d'un état, si vous voulez. Il y a conscience à chaque instant. On peut éliminer les cas de sommeil profond. Il faudrait les aborder un peu différemment. Mais disons que dans notre vécu, Dieu, il y a toujours conscience de quelque chose. On entend, on voit, ce qui fait évidemment notre vie. On est bien différent de la statue. Là, cette statue, il n'y a rien, il n'y a aucune expérience. Elle ne voit rien, n'entend rien, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est ce qui se passe dans la richesse du fait que nous sommes en vie constamment. Il y a des expériences, vision, audition, etc. Conscience de quelque chose à chaque instant. Mais nous ne sommes pas des ordinateurs ou des enregistreurs. même si on peut conserver une trace par la mémoire des expériences. Il y a une différence fondamentale entre un appareil, une caméra qui pourrait garder les images, un enregistreur qui peut garder les sons. Il y a une différence fondamentale, c'est que l'enregistreur, il ne sait même pas qu'il entend des sons. C'est que la conscience, elle, pour pouvoir fonctionner, est nécessairement consciente d'elle-même. Elle a conscience d'entendre lorsqu'elle entend, conscience de voir lorsqu'elle voit, conscience de penser lorsqu'elle pense. S'il n'y a pas cette conscience-là, la conscience a aucun pouvoir, elle est inutile. Si je regarde, je ne sais pas, la colline en face, les montagnes en face, et que quelqu'un vient me demander, est-ce que tu vois la montagne ? Bien sûr je la vois, je suis en train de la regarder. Si il fallait que je me regarde pour me dire, ah oui, je vois la montagne, ça serait absurde. Donc il y a immédiatement dans chaque expérience de conscience, il y a non seulement le contenu, si vous voulez, la forme, les couleurs ou le son, ce qui est vu, entendu ou même pensé, il y a ceci, mais en même temps, il y a une conscience de connaître ceci. Donc le philosophe Alain disait, savoir, c'est savoir qu'on sait. Parce qu'évidemment, si on ne savait pas qu'on sait, ce savoir serait complètement inutile. Savoir, c'est un peu ambigu. On pourrait dire conscience, c'est être conscient, d'être conscient de quelque chose. Donc dans chaque expérience, il y a nécessairement cette conscience de conscience, plus conscience de quelque chose. Depuis notre naissance, j'imagine, jusqu'au dernier souffle, il y a cette conscience de conscience avec tous ces différents contenus, si vous voulez. Et cette conscience de conscience est cette constance, si vous voulez, parce qu'elle est toujours là, elle est similaire, elle n'est pas quelque chose de monolithe qui ne change pas, qui est éternel, elle se régénère à chaque instant, mais elle se régénère de manière similaire. Dans la conscience de conscience, elle n'est pas différente à chaque instant. La conscience de conscience est la même dans la vision, dans l'audition, dans le goût, l'expérience du goût, dans la pensée. Donc il y a là un élément de constance qui se régénère à chaque instant, pareil à lui-même si vous voulez, et qui donne, qui est là le garant de cette unité que nous avons. Donc il n'y a pas besoin d'un moi dont on ne sait pas bien que faire et on ne sait pas exactement ce qu'il est. Il y a cette conscience de conscience à chaque instant. Mais la conscience n'est pas un objet. Il y a une différence fondamentale entre les objets qu'on voit, qu'on entend, on pourrait dire même les autres personnes pour soi-même, et la conscience. Il y a quelque chose de radicalement différent. Et la difficulté, c'est que lorsqu'on se questionne sur la conscience, on veut se questionner comme on se questionne sur les objets, puisque c'est ce qu'on connaît. On connaît le seul mode de questionnement qu'on sache, qu'on connaisse, c'est celui de questionner les caractéristiques d'un objet, d'un contenu, même d'une pensée, si vous voulez. Et on veut appliquer ceci à la conscience, comme si on pouvait en faire un objet, mais on ne sait pas alors... Si cette conscience était un objet, elle serait un objet pour quelle conscience ? On n'a pas deux consciences, on ne peut pas commencer à se scinder, si vous voulez. Kant exprimait ceci de manière claire, il disait on ne saurait connaître comme un objet ce qui connaît les objets. C'est clair, on ne peut pas imaginer qu'on puisse ramener la conscience, même si ça nous arrange, parce que c'est un mode qu'on connaît bien, au niveau des objets. Elle n'est radicalement pas un objet. Elle n'a pas de couleur, pas de forme, pas de caractéristiques, si ce n'est d'être conscience. Or, dès qu'on essaye de la déterminer, immédiatement, on glisse vers les objets. Quand les neurosciences pensent pouvoir investiguer la conscience, c'est une absurdité du point de vue épistémologique, ça n'a pas de sens. La conscience, on ne peut pas en faire un objet d'étude. Ce n'est pas un objet, elle ne peut pas être observée. On pourra déterminer les circuits du cerveau, beaucoup de choses. On peut dire en neurosciences, évidemment, des choses extraordinaires, il y a une immense richesse, mais d'aller jusqu'à penser qu'on pourra découvrir, on peut découvrir ce qu'est la conscience d'une manière scientifique, ça ne joue pas, puisqu'il faudrait trouver des caractéristiques qui sont celles des objets. La conscience, elle n'est pas localisable. On ne peut pas dire elle est ici ou là. Par rapport à quoi ? Il faudrait qu'on sorte de la conscience pour la localiser quelque part. La conscience n'est pas localisable. C'est déjà une notion intéressante. Parce qu'en général, les objets qui existent, on peut les localiser. Tout d'un coup, la conscience, on ne peut pas dire elle est ici ou là. Parce qu'il n'y a rien par rapport à quoi on pourrait dire elle est ici ou là. Bon, le propos ce soir n'est pas de parler de la conscience, mais pour comprendre un peu comment le moi se structure, il est important d'aborder un petit peu le problème de la conscience. Donc la conscience n'a rien pour être saisie, vue, gardée, conservée, si vous voulez. Mais pour exister au niveau des choses, au niveau des autres personnes, eh bien la conscience, elle va créer un substitut d'elle-même, un représentant, quelque chose qui la représente dans le monde, qui la représente parmi les autres. Et ce substitut, ce représentant, si vous voulez, c'est le moi, le je. Cette notion du moi et du je est une manière, dans le monde des objets, le moi et le je est qu'un contenu de la conscience, c'est un concept, une idée qui a son utilité extrêmement importante, mais qui, au niveau des objets, représente la conscience qui, elle, n'est pas représentable. Donc une manière, si vous voulez, de rendre cette conscience tangible, tout d'un coup de lui donner des caractéristiques qui ressemblent à celles des objets. Mais c'est une manière qui est là pour exprimer la conscience de conscience. Donc si on reprend les exemples précédents, dans la vision par exemple, si je dis « je vois », eh bien ce « je » qui est là, il est là pour la conscience de conscience lorsqu'elle voit. Si je dis « j'entends », eh bien ce « je », il est là pour représenter la conscience de conscience lorsque j'entends. Si je dis « je suis fatigué » ou « j'ai froid », il est là pour exprimer la conscience de conscience dans cette expérience corporelle. Donc vous voyez, la conscience de conscience n'ayant aucune caractéristique, elle est là dans chaque expérience, elle est dans l'émotion, elle est dans la pensée, elle est dans la perception. Donc le « je » et le « moi » qui représentent cette conscience, eh bien il est là projeté dans chacune de ces expériences, la vision, l'audition, l'émotion, la perception corporelle. Donc il semble prendre toutes ces apparences de son contexte, le contexte de la vision quand je vois, de l'audition quand j'entends, de la sensation corporelle quand c'est ce que j'éprouve, de la fatigue, des états mentaux. Mais lorsqu'on essaie de mettre le doigt dessus, si on croit que à ce moment-là, c'est l'émotion, non, c'est pas l'émotion, c'est le corps, non, c'est pas le corps. On se rend compte que si on veut tout d'un coup le déterminer par son contexte, ça ne joue pas, puisqu'il change constamment. Donc le moi est une manière correcte de parler, mais quand on veut lui donner une existence solide, concrète, à ce moment-là, c'est comme si on donnait une existence réelle, concrète, à une fiction. Cette manière qu'aurait la conscience d'exister au niveau des objets, de se matérialiser, si vous voulez, eh bien, c'est que de l'imaginaire. Mais si tout d'un coup on prend pour la réalité, alors ce moi, ce je, tout d'un coup existe réellement. Il lui arrive plein de choses. Donc c'est pour ceci que c'est important de savoir de quoi on parle quand on questionne le moi, parce que on peut glisser, et très souvent on glisse vers la conscience. Je vous donne une citation de saint Augustin qui dit « Ce que je trouve en rentrant en moi-même, c'est donc pas moi ou l'ego, c'est la lumière divine. » Ici, lumière divine, on peut le prendre comme la conscience, qui a aussi cette qualité lumineuse, si vous voulez. Donc, quand saint Augustin, ici, dans sa méditation, il essaye de voir qu'est-ce qu'est l'essence de lui-même, eh bien, il ne s'accroche pas à ses représentations, si vous voulez, au moi ou au je, ce qu'il découvre, c'est la pure conscience. Alors je lisais un philosophe qui disait « Saint Augustin ne cherche pas le moi ». Mais il le cherche, je crois qu'il le cherche honnêtement, mais il ne le trouve pas. Ce qui semble être normal, si vous voulez. Parce que d'ailleurs, c'est pas le seul à pas le trouver. C'est pas une déficience, mais c'est, je crois, par son honnêteté, d'ailleurs. Mais ce qui ici est intéressant pour nous, c'est que, alors, ce qu'il découvre, c'est la conscience. Lumière divine, ici, donc une conscience tout à fait, non pas limitée ou délimitée. Donc on a, dans cet exemple de saint Augustin, on a ici un cas très, très clair de chercher le moi, on ne trouve rien et on découvre la conscience. Et très souvent, on a des exemples comme ceci, même dans la tradition bouddhique, où on dit ce qui représente le moi ou ce que le moi représente est la conscience. Il y a des petites nuances dans les traditions bouddhiques. Tout le monde n'a pas exactement le même point de vue, mais quand on essaie de déterminer qui est-ce qui serait le plus proche d'un moi, si vous voulez, c'est bien cette conscience. Je crois, comme j'ai essayé de le décrire, qui, elle, est cette continuité ou cette unité dans notre vie et dans nos expériences. Mais qui n'est pas personnel. C'est pas une conscience universelle, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas de caractéristiques. Tout ce qui est de l'ordre historique pour nous, psychologique et autres, sont des contenus de la conscience. Des choses qu'elle pense, qu'elle croit, qu'elle ressent, etc. Mais qui sont pas les caractéristiques de la conscience. La conscience n'ayant aucune de ces caractéristiques. Donc, pour la conscience, qui ne peut se situer nulle part parce qu'elle a rien par rapport à quoi se situer, il n'y a pas de non-conscience, si vous voulez. Pour elle, sa fin ne veut rien dire. Il est impossible pour la conscience d'imaginer la fin de la conscience. C'est absurde, puisqu'il faudrait qu'elle soit là pour éprouver la fin de la conscience. Elle peut pas être là, c'est impossible. La conscience ne peut jamais imaginer sa propre cessation. Ou alors c'est de l'imaginaire, mais elle n'est pas trompée par ceci. Il n'y a pas de limite. Donc dans notre méditation, qu'est-ce que nous éprouvons, si vous voulez, nous éprouvons la vision, l'audition, la sensation corporelle, des émotions, toute la richesse de la vie, des états mentaux de fatigue ou de clarté, de calme. Il y a ces expériences-là. Et puis, il y a en même temps cette conscience de conscience. Là, on sait plus ou moins qu'on est en train de penser ou de ressentir des sensations corporelles ou d'éprouver de la fatigue ou de la tranquillité ou de la joie. Et cette conscience de faire ceci, en général, elle est lié à la notion du moi ou du je. Je suis fatigué. J'ai des douleurs. Je le sens. Donc ceci est un concept qui est rajouté dans l'expérience. Une manière de saisir cette expérience, de la saisir personnellement, si vous voulez. Dans notre méditation, il ne s'agira pas d'essayer de nous convaincre du contraire. Le Bouddha, il a dit, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Donc on va essayer de se convaincre, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Mais il s'agira au contraire de rester le plus proche possible de l'expérience. Je reprends l'exemple de la fatigue, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas trop dramatique. Donc on peut explorer ceci, pour dire, sans danger. Le seul danger étant de s'endormir, ce qui est assez limité. Alors, j'ai l'expérience de je suis fatigué. Donc il y a cette fatigue, cette qualité, si vous voulez, de l'état mental, de fatigue, cette conscience qu'il y a, conscience de la fatigue, mais immédiatement, il y a cette solidification de la conscience, ou cette représentation de la conscience, au moyen du concept « je et moi », qui vient là représenter, si vous voulez. Il représente la conscience de conscience. Conscience de conscience, c'est aussi ce qu'on appelle présence. Il la représente. Et quand on s'attache à cette notion « moi et je », on manque la conscience de conscience ou la présence, puisqu'on prend son substitut, son représentant qui n'est rien en lui-même. Donc on se trompe, on va parler au représentant au lieu de parler au sujet lui-même. Donc il s'agira dans l'expérience méditative, non pas d'essayer de lutter contre ce je ou ce moi, je reprends l'exemple de la fatigue, je l'éprouve, je la ressens, et j'essaye de me rendre plus sensible, plus disponible à l'expérience de la fatigue, sans être perdu dedans, en ayant conscience que je suis conscient de cette fatigue. Cette présence à la fatigue, alors il peut y avoir le « je suis présent à cette fatigue », »,« je ressens de la fatigue », mais je n'attache pas une grande importance à cette notion du « je » ou du « moi ». Je ne suis pas là pour la solidifier ou la renforcer. Je ne pense pas qu'elle est nécessaire ou que c'est le seul moyen d'éprouver la fatigue. En général, on a l'impression que le seul moyen d'éprouver quelque chose, c'est par l'intermédiaire du « je ». Et en méditation, si on fait trop d'efforts, il solidifie encore le « je ». Je vais y arriver, je vais essayer, je vais continuer. Qui renforce cette notion du « je ». Donc, dans l'expérience elle-même, c'est de rester dans la plus grande sensibilité, sans se préoccuper de cette notion du « je », ni de sa présence, ni de son absence. Et à ce moment-là, en essayant d'être à l'écoute, qu'est-ce que la fatigue ? Qu'est-ce que la tristesse ? Qu'est-ce que le calme ? Qu'est-ce que la tranquillité ? Et tout d'un coup, je peux découvrir la tranquillité ou le calme, simplement cette expérience de calme et de tranquillité, dans la plus grande intimité, où je découvre tout d'un coup qu'il n'y a rien de personnel dans cette expérience. Que la notion du moi ou du je, elle n'a pas été amenée, elle n'a pas été projetée sur cette expérience. Parce que j'ai été dans une plus grande sensibilité, dans une écoute plus fine. Et ceci peut être le cas dans chaque expérience. L'audition, la vision, la sensation corporelle, l'émotion, donc la tristesse, peut faire l'expérience de la tristesse, simplement, sans qu'il y ait cette représentation de la conscience, qui est le moi ou le je. Il y a juste conscience et tristesse. Dans la méditation, il se peut que, par moment, il y ait juste conscience de ce quelque chose, sans qu'il y ait plus de représentant de la conscience. Sensation et... Conscience de la sensation, de l'audition, de l'état mental, de la pensée. À chaque instant, ceci surgit. Ce jeu de conscience de quelque chose, conscience de quelque chose. À ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a cette similarité de présence ou de conscience à chaque instant. Mais il n'y a plus ce jeu, ce moi solide qui est là, qui interfère dans chaque expérience. Donc on ne part pas dans une croisade contre le moi ou le je, qui serait absurde. Mais on sent bien dans la tradition méditative ou même dans les traditions mystiques, il s'agit de s'engager dans une exploration sans aucun a priori. Et le moi ou le je est un a priori. Maître Eckhart disait il faut se libérer de la personnalité, multiplicité et de la temporalité. Ce sont des a priori qu'on met dans les expériences. Personnalité, multiplicité, temporalité. Si on croit qu'elles sont, ces dimensions sont nécessaires à chaque expérience, alors on entre avec des a priori, on ne peut pas découvrir, si vous voulez, la réalité avant tout a priori, ça veut dire aussi avant tout concept. On revient à quelque chose de l'ordre d'une plus grande simplicité. Qui ne nie pas, mais qui ne croit pas non plus que ce soit un élément indispensable. Et ceci, on peut en faire l'expérience à n'importe quel instant de notre méditation, à nouveau dans la somnolence, la fatigue, dans la joie, dans le calme. C'est très important aussi d'avoir cette rigueur dans les expériences agréables. Quand c'est désagréable, on est motivé pour questionner. Quand c'est agréable, on est un peu moins motivé. Tranquille, c'est cool. Voilà. J'ai une bonne méditation. Mais c'est justement là qu'il est judicieux, à ce moment-là, de questionner, parce que c'est pas dramatique. Il y a une plus grande disponibilité et de pouvoir faire une expérience de joie, de tranquillité, quand il n'y a pas cette notion de moi. On se rend compte qu'il y a une grande liberté. J'ai dit le premier soir en parlant de la première vérité, si vous voulez, que ça inclut toute la condition humaine. Et pourquoi elle est inclue dans la première? Il y a les joies et les peines. Eh bien, c'est dans la mesure où il y a cette notion de joie et du moi que tout est inclus dans cette première vérité. Et que cette joie que j'éprouve, si je m'identifie, elle m'enferme. Cette joie maintenant que je pourrais éprouver en méditation, s'il n'y a pas cette notion du moi ou du je qui la saisit, à ce moment-là, elle n'est pas conditionnante. Elle ne perd pas cette qualité de joie, mais elle perd son importance en tant que qualité de joie. Ce qui voudrait dire qu'une expérience, lorsqu'il n'y a pas cette notion du moi ou du je, il n'y a pas d'identification, une expérience de joie ou une expérience de peine, dans le fond, ont très peu de différence. Parce que ce qui semble être prédominant, c'est cette conscience de soi dans cette expérience-là. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, une expérience difficile sans la notion du moi, on ne l'échangerait jamais contre une expérience agréable avec la notion du moi. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de contraignant, de limité, c'est agréable, mais on est enfermé dedans, si vous voulez. Alors que l'autre expérience qui apparaît ou apparaîtrait désagréable, elle n'est pas contraignante, elle ne limite pas cette liberté. Donc pourquoi il est important, je pense, de parler de cette notion du moi ou du non-moi, c'est pas pour nous convaincre, à nouveau, en faire un mantra, mais c'est pour pouvoir prendre cette hypothèse de travail. Et si le moi n'était qu'une manière de parler, une manière juste de parler, mais qu'une manière de parler, et si je pouvais être dans l'expérience avec une plus grande simplicité, à ce moment-là, on peut essayer d'explorer chaque expérience méditative, quelle qu'elle soit, avec cette sensibilité. Se donner la possibilité de découvrir un autre positionnement. J'ai parlé à de nombreuses reprises de positionnement dans l'expérience. Ce positionnement, c'est justement un positionnement quand il n'y a plus de je ou du moi, qui est ce positionnement exactement dans l'expérience. Tant qu'il y a un je ou un moi, il y a une distance. Il y a je et moi et l'expérience. Même quand je suis identifié, ma tristesse, etc., il y a encore moi et la tristesse. Dans l'expérience méditative, qu'on pourrait appeler présence méditative, mindfulness ou sati, il n'y a jamais de je ou de moi. Et dans cette expérience-là, être et connaître, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction. On est cet être de la conscience dans l'expérience elle-même. Donc essayez d'amener cette interrogation dans votre pratique. Non pas tellement intellectuellement, mais on peut reconnaître aussi. Tiens, là, il y a un fort sentiment du je ou du moi. J'en ai marre, je suis fatigué, je vais nulle part. Ou bien, c'est extraordinaire, je réussis, je suis très bon à la méditation, c'est mon truc. Voilà, c'est quand ceci est fort, d'en prendre conscience. Tiens, c'est intéressant, cette notion du moi ou du je comme elle est forte. Et puis, rester plus proche de l'expérience. Je mentionnais la fatigue aussi. J'ai dit que le soir, c'est une chose qu'on peut explorer parce qu'à nouveau, si vraiment ça devient trop pénible, on peut toujours aller se coucher. C'est pas très difficile. Et d'explorer un peu la fatigue en fin de journée et de voir que si on peut ne pas s'identifier à cette fatigue a aucun pouvoir contraignant. Il y a la fatigue, il y a le repos, et voilà, c'est simplement d'autres aspects de l'expérience. Mais dès qu'on s'identifie, alors évidemment, ça devient contraignant, ça devient lourd, ça devient fatigant. Donc voilà quelques réflexions sur le moi. J'ai pas abordé la conscience dans toute sa richesse, parce que le danger dans ce que j'ai dit, ça serait de vouloir en faire une autre sorte de chose ultime qu'on va saisir. Il ne s'agit pas de ceci, mais ce soir on voulait aborder un peu la notion du moi et aussi montrer à quoi elle correspond, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un sentiment d'unité, et ce sentiment d'unité est important. Il faut bien en rendre compte si on ne veut pas que le moi soit le garant de cette unité. C'est cette conscience de conscience, je crois, qu'assez clairement, et qu'on peut éprouver clairement dans la méditation aussi.